Je vous invite à entendre deux passages de l'Écriture dans les Actes des Apôtres, tout d'abord, au chapitre 8, le verset 26 à 40, et puis dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Ce sont des choix que Caroline et Joseph ont formulés, donc il n'y avait pas de raison de refuser la lecture de ces textes. Hein. Ça me semblait tout à fait normal de pouvoir les partager avec vous. Allons donc dans les Actes des Apôtres. Tout d'abord, c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Pardon. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance, rejoins ce char. » Philippe y courut, il entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?»« Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai pas de guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir près de lui. Et voici le passage de l'Écriture qu'il lisait. Comme une brebis que l'on conduit pour l'égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c'est ainsi qu'il n'ouvre pas la bouche. Dans son abaissement, il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. S'adressant à Philippe, l'eunuque lui dit, « Je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit alors la bouche et parlant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche encore que je reçoive le baptême ?» Il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau et Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe et l'eunuque et il ne le vit plus. Mais il poursuivit son chemin dans la joie. Quant à Philippe, il se retrouva à Azotos et il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Et puis dans l'évangile de Matthieu, donc au chapitre 5, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. » On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Père, ta parole est pleine d'enseignement et de vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et avant de revenir sur ces textes, je vous invite à prendre le cantique 216.
Que nous donne ton amour. grâce. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit.
Oui, Père, donne-nous de recevoir cet esprit de feu, de liberté et de joie qui nous pousse dans un élan irrésistible vers le monde pour dire la joie du royaume, la promesse de la parole. Merci, Père, pour l'esprit du baptême, pour l'esprit de la parole, pour l'esprit du royaume. Amen. Voilà, j'aimerais revenir avec vous sur ce passage de l'évangile de Matthieu tiré du sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. J'ai pas vraiment l'impression, lorsque je lis l'évangile, et peut-être êtes-vous comme moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un grand traité de théologie. La théologie viendra plus tard. Elle est déjà dans le Nouveau Testament. Vous savez, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, essaye de systématiser un petit peu la pensée chrétienne du début de l'Église. Mais dans le cas des Évangiles, on a une collection de paroles de Jésus ou attribuées à Jésus ou de prédications très anciennes qui sont là, qui s'adressent à des gens qui sont en situation d'entendre. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est intéressant qu'après les béatitudes, vous voyez là, les fameuses béatitudes, il y ait tout de suite ce texte-là, qui est très, très fort finalement, et qui va saisir les gens en disant « Vous êtes là, vous les auditeurs !» Et ceux d'hier, évidemment, et ceux d'aujourd'hui, vous êtes là, et vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ces gens, ils sont là, ils entendent cette parole qui est très forte, qui implique aussi un jeu, celui qui dit cette parole, vous êtes. Et entre le jeu qui prononce la parole et le vous qui reçoit cette parole, évidemment, il y a un espace qui est là et qui permet précisément à cette parole de prendre du relief, de la force, d'avoir peut-être même le temps d'être intégré finalement, d'être vécu. Il y a comme une sorte d'écho qui se répète dans le temps, dans l'espace et qui vient jusqu'à nous dans l'actualité de notre vie pour que nous puissions à notre tour, les uns et les autres, entendre « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Est-ce si évident ? J'en suis pas sûr. Parce que vendredi après-midi, j'ai discuté de ce texte avec une personne que certains connaissent et dont ils se souviennent, puisque c'est une dame qui a une sclérose en plaques et qui est en fauteuil roulant, qui est très très handicapé, et qu'on a baptisé un jour, qui était musulmane et syrienne, et qu'on a baptisé il y a, je ne sais plus, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça, et qui depuis 3 ans est dans un institut médical. Et donc, c'est une personne qui est très, très, très diminuée, avec une maladie implacable. Et donc, je lui dis, je vais prêcher sur le texte « Vous êtes la lumière du monde », dans la discussion qu'on a eue ensemble vendredi après-midi. Ah, elle me dit « Non, c'est Jésus qui est la lumière. » Ah, je dis « Oui, bien sûr, je ne vais pas dire le contraire. » Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit « Vous êtes la lumière. » On me dit « Non, c'est Jésus qui est la lumière. » Oui, 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 je sais, c'est l'évangile de Jean qui va le dire, etc. On a discuté là-dessus. Mais n'empêche que le texte, là j'ai pointé mon doigt sur elle, j'ai dit « Vous êtes la lumière du monde. » Et là, silence. Et au bout d'un silence qui était court, évidemment, mais qui était un silence rempli, elle m'a dit « C'est une parole profonde. » C'est génial. Imaginez une toute petite dame complètement recroquevillée sur elle-même, à moitié paralysée, qui reçoit, à partir du moment où je la pointe du doigt, en lui disant « vous là, vous êtes la lumière du monde, c'est vous la lumière du monde, c'est pas Jésus. » Et qu'elle dit « c'est une parole profonde », en recevant cette parole. Et là, je me suis dit « il y a toute la prédication là-dedans, après quoi, moi j'ai plus rien à dire. » Je veux dire, tout est déjà joué dans cette réflexion de Gloria. Ça s'appelle Gloria. Et ça, je trouve qu'effectivement, quand on fait vraiment attention à ce qui se dit, ce qui s'écrit dans le Nouveau Testament, qu'on ne lit pas la Bible comme cela par habitude, comme on peut avoir, effectivement, lorsqu'on la connaît bien, eh bien, il y a des interpellations qui sont là terribles, qui viennent nous chercher dans notre existence, dans notre monde, là où nous sommes, pour nous interpeller, pour nous réveiller, pour nous dire, eh ben, nous sommes la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde, là, les uns les autres, assis ici. Je veux dire, vous êtes, chacune et chacun d'entre vous, le sel de la terre et la lumière du monde. Vous ne dites rien, vous bougez pas, mais vous devriez vous lever, crier de joie à une annonce pareille, je veux dire, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'Évangile et c'est une parole qui est attribuée à Jésus-Christ. Donc je ne sais pas si vous mesurez le poids de ce que ça représente. Hein. C'est une parole qui est extrêmement forte. C'est une parole d'élection, être le sel et la lumière. Mais il faut faire attention. S'il y a cette élection qui est là, cette interprétation qui vient nous chercher dans notre existence, comme ça, toc, sans commentaire, hein, pour que nous puissions précisément nous en saisir et la faire nôtre à notre manière, des uns des autres, il faut faire attention de ne pas perdre cette interpellation. Il ne faut pas perdre la saveur du sel, parce qu'on risque d'être rejeté finalement. Alors c'est vrai qu'en écrivant ces lignes, je pensais parfois à l'Église, qui est un peu fadouille parfois. Ça lui arrive de perdre sa saveur, dire. Mais ça lui arrive aussi d'avoir beaucoup de saveur. Ça dépend des moments, ça dépend des gens, des situations, etc. C'est trop facile de dire « Oh, l'Église, elle est comme ci, comme ça ». Non, c'est pas vrai. Il y a des moments extraordinaires où l'Église éclaire le monde, a une saveur extraordinaire, donne du relief au monde, je veux dire. Quand je lis l'histoire et la vie d'Albert Schweitzer, quand j'ai pu voir dans les reportages des gens comme Teresa à Calcutta ou bien d'autres, hein, ou Martin Luther King, enfin il y a des gens qui sont porteurs de lumière, qui portent l'Église comme cela, qui sont des témoins extraordinaires et qui ont l'impression que le monde est sauvé par ces gens-là, véritablement, incontestablement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on manque d'enthousiasme, où on est un peu fade. Et bon, peut-être que nos églises en Occident sont un petit peu comme ça, nos églises historiques sont peut-être dans une phase où on n'est peut-être pas assez lumineux et pas assez fort en goût, si je puis dire. Pourtant important, vous savez. Vous savez que des philosophes païens et antichrétiens comme Cels et d'autres trouver que les chrétiens, les premiers chrétiens, avaient la saveur, précisément. C'est ce qui les gênait, vous voyez. C'est ce qui les embêtait. C'était pas là. Ils étaient capables de discuter sur Jésus-Christ, fils de Dieu, ou pas fils de Dieu, réfuter, accepter. Ils avaient tous les moyens pour ça, pour répondre. Mais il y a quelque chose qui les frappait, c'était de voir qu'ils s'aimaient. Voyez comme ils s'aimaient. Cette réflexion qui a traversé les siècles, voyez comme ils s'aimaient. Là, il y a une lumière qui est là, incontestablement, qui passe, qui ne peut pas être éteinte, finalement. Alors, il faut faire attention. Soyons responsables. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, peut-être, mais nous sommes responsables. Il faut faire attention. Le sel, c'est intéressant. Le sel, il est invisible. Et la ménagère qui met une pincée de sel dans un plat, quel qu'il soit, le sel, poup, il est dilué, on ne le voit plus. Et pourtant, nous le savons toutes et tous, c'est un rehausseur de goût, ce qui donne du goût, donne du relief à l'aliment. Les gens qui ont des régimes sans sel, bon, ils sont pas toujours très contents parce que bon, une baguette sans sel, c'est pas terrible. Hein. Je sais pas si vous en avez goûté, mais franchement, ça manque de sel, si je puis dire. Le sel, il est là, et l'image est tout à fait intéressante. Je crois que c'est intéressant. Les chrétiens, ils sont dans la pâte, ils sont dans le plat, ils sont pas toujours visibles, et pourtant ils donnent du goût à la chose, à l'ensemble. Et là aussi, en écrivant ces livres, je me disais, c'est vrai que parfois on a l'impression que le christianisme est complètement absent, qu'on ne le voit pas, et pourtant, il a donné du goût à la société dans laquelle il est. Quand je relis la morale laïque, vous savez, c'est toujours intéressant de lire les textes de morale laïque, par exemple, les textes comme cela, qui ne sont pas des textes chrétiens, a priori. Eh bien, c'est intéressant de voir combien ils sont pétris, mais vraiment pétris, de morale chrétienne. Vous voyez ? Ils ont gardé la saveur, finalement, mais ils n'ont pas voulu exprimer, effectivement, d'où venait cette saveur. Voyez. Alors, il faut respecter, évidemment, la laïcité, ça va de soi. Je veux dire, moi-même, je suis tout à fait pour la laïcité. Mais, je veux dire, ça m'a toujours intéressé de voir que cette morale laïque, j'ai cherché souvent dans les livres de la Troisième République jusqu'aux livres de la Quatrième et Cinquième République des leçons de morale pour voir un petit peu de quoi il retourne et comment ça évolue. Et c'est très intéressant de voir que le christianisme a imbibé finalement la société dans laquelle il s'est développé en Occident. Oui, nous sommes peut-être comme le sel de la terre, invisible, hein, mais donnant du goût, du relief finalement à l'ensemble de la société. Mais je pense que, à côté de cet exemple que je viens de donner, il y a plein d'autres exemples qui nous disent que, eh bien, il y a des actions chrétiennes qui sont là, qu'on ne saisit pas, qui sont très modestes et dont nous tirons profit. Et je me disais qu'au retour des vacances, certains parmi vous ont peut-être visité, je ne sais pas moi, une petite église romane, vous savez, dans un village. Moi, j'aime bien visiter ces vieilles pierres, vous savez, parce que bon, il y a une atmosphère, une esthétique qui me parle. Finalement, peut-être êtes-vous comme moi. Mais quand on entre comme ça dans un petit village et puis qu'il y a une petite église comme cela, je me plais à penser que il y a là ce qu'on appelle les bigots, vous savez, les gens, on a toujours un peu de leur dire, vous savez, ils sont tout le temps à la traîne dans les églises, ils n'en sortent jamais, etc. Mais je me plais à penser qu'il y a une dame âgée qui est vraiment bigote, là, mais qui a balayé l'église et qui a ciré les bancs de l'église. De telle sorte que quand on entre dans cette église romane, eh bien, elle a fait passer quelque chose qui anime sa vie et qui anime sa foi dans la toute grande simplicité. Nous en tirons profit. Nous avons là le goût de quelque chose qui est tout à fait intéressant, et pourtant nous ne réalisons pas d'où ça vient. Être le sel de la terre, c'est peut-être effectivement avoir cette discrétion qui caractérise souvent les chrétiens, qui sont sensibles à la liberté de penser des autres, hein, mais qui sont là quand même dans la société pour permettre à la société de grandir et de vivre. Je pense aussi à toutes les ONG chrétiennes, à commencer par la Croix-Rouge, hein, qui a été fondée par Henri Dunant, vous le savez. Voilà. Et bien d'autres encore. Les prophètes ont été peut-être comme ça, parlant à droite, à gauche, annonçant une parole forte qui finalement va donner du relief et du goût à la société hébraïque de l'Antiquité. Et puis la lumière. La lumière, c'est intéressant aussi. La lumière, c'est comme le sel, hein, ça donne du piment à la vie. La lumière, ça donne des couleurs. La nuit est en noir et blanc, toujours. Hein. Dans la nuit, il n'y a pas de couleurs. Hein. Quand le soleil arrive le matin, les couleurs apparaissent avec le lever du soleil aussi. La lumière est intéressante. Et elle est là, dit le texte de l'Évangile, elle brille pour tous. Tous ceux qui sont dans la maison, c'est-à-dire la maison, c'est une image symbolique pour dire le monde. Elle est là pour tout le monde, la lumière. Ceux qui en veulent, ceux qui n'en veulent pas, ceux qui la cherchent, etc. Mais peu importe. La lumière, elle éclabousse le monde entier. Ça aussi, c'est intéressant. Elle éclabousse, elle rend beau le monde, elle le rend coloré, finalement. Elle attire, elle questionne. On se pose des problèmes, on se dit, mais d'où vient cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette parole, finalement, qui nous interpelle d'une certaine manière? D'où vient-elle? L'eunuque éthiopien, là, qui lit le texte d'Ésaïe sur le serviteur souffrant, il se pose des questions, il dit, d'où ça vient, ça? De qui on parle, finalement? Et Philippe, le diacre Philippe, pas l'apôtre, hein, c'est le diacre Philippe, vient lui expliquer un petit peu le texte. Et effectivement, quand la lumière est là et qu'elle devient de plus en plus importante, et qu'elle apporte sa chaleur, finalement, eh bien, l'eunuque éthiopien va demander le baptême. Cette lumière, elle est là. Et je pensais à une histoire d'un pasteur qui s'appelle André Pierdeau, et on parlait comme cela de la lumière, il y a déjà un certain temps, puisqu'il est décédé. Et il disait, Dieu, c'est comme le soleil. On ne peut pas le regarder, hein, sinon on risque quand même quelques soucis si on regarde le soleil. Mais en revanche, il y a les rayons du soleil qui portent cette lumière finalement. Et Jésus, c'est comme les rayons du soleil. Et la chaleur que procure le soleil, ce bien-être, eh bien c'est l'esprit. Nous ressentons cet esprit, nous avons la lumière. Nous cherchons, nous nous questionnons finalement, comme l'eunuque éthiopien, pour savoir d'où ça vient finalement. Être lumière du monde, c'est peut-être permettre aux gens d'y voir un peu plus clair autour d'eux, de se poser des questions, de rechercher, d'aller rencontrer finalement, et à leur tour d'interpeller, de demander peut-être le baptême. Être discret, être peu visible, mais en même temps en éclairant tout le monde, c'est une manière d'être. C'est la manière d'être chrétien. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes les enfants de lumière. Vous êtes en Christ, finalement. Si vous entendez cette parole, si vous la saisissez, la méditez, finalement, pour devenir un homme nouveau. Là aussi, l'apôtre Paul développera tout cela dans ses lettres pour dire que cet homme nouveau est un homme sauvé en Christ par une parole de vie, une parole de lumière. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas jeter nos œuvres, nos manières d'être et de faire à la tête des gens. Trop de sel peut gâcher un plat et trop de lumière peut éblouir aussi, évidemment. Mais il ne faut pas cacher. Je crois qu'il faut témoigner de cette lumière, la porter véritablement. C'est notre responsabilité. Voici la lumière qui est là et qui éclaire parfois de manière inattendue et de manière très simple. Peut-être trop peu évidente, de telle sorte qu'on ne se pose pas tellement la question. Mais aujourd'hui, dans ce temple, je voulais quand même signifier que la lumière elle a été portée par une petite fille qui est née au mois de mai dernier et qu'on a baptisée, et qu'elle-même est porteuse de lumière. Elle n'en sait rien, elle ne le sait pas, mais peu importe. Dans son baptême, cet enfant, par l'espérance qu'elle porte en elle-même pour ses parents et pour la communauté, est porteuse de cette lumière, finalement. Je suis, dit Jésus-Christ, et je suis, entre autres, la lumière du monde. Et vous? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est essentiel. Nouvelle manière de vivre, nouvelle manière de témoigner, et pour soi, et pour le monde. C'est là toute la joie et toute l'espérance du royaume. Amen.